Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Actes des Apôtres, chapitre 13, simplement un verset, le verset 36. Et nous est parlé d'un homme, or David, acte 13, 36, or David, après avoir en son temps, soulignez bien ce mot, en son temps, servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Dans la version amplifiée, il nous est dit, or David, après avoir servi la volonté de Dieu, son dessein, son plan et ses conseils dans sa propre génération s'est endormi. Et puis, j'aimerais que vous puissiez regarder dans la première épître aux Thessaloniciens. Première épître aux Thessaloniciens. Au chapitre 2, nous allons lire deux versets. Le premier verset au verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Il parle de vous, mes frères et sœurs. Dieu vous a jugés dignes de vous confier l'évangile. Non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à qui ? À Dieu, celui qui sonde nos cœurs. Et la version parole de vie nous dit ceci, au contraire, Dieu nous a trouvés capables. Et il nous a confié sa bonne nouvelle. Maintenant, quand nous parlons, quand vous parlez, quand vous adorez, quand vous servez, quand vous vous exprimez, ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui voit le fond de votre cœur. Et puis regardez le verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant, de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Je rappellerai à votre mémoire un passage que le disciple Pierre, cet homme quand même avec un certain caractère, a déclaré, c'était une exhortation, il dit, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour, fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés à bénir. Réfléchissez un moment. Vous êtes venu dans ce culte, c'est pour quoi faire ? C'est pour être béni ? Si vous êtes venu simplement pour être béni, vous n'allez pas entrer dans l'héritage que Dieu vous a appelé. Mais nous avons été appelés afin de bénir, pour pouvoir hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, dira Pierre, veut aimer la vie et voir des jours heureux, j'espère que tout le monde veut voir des jours heureux, alors qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal. Je voudrais ce matin partager avec vous une question qui est venue à mon esprit durant tout ce congrès. Dans ce congrès, nous avons eu des enseignements. Les pasteurs étaient à l'écoute aussi de la voix de Dieu. Nous avons regardé aussi ce qui concerne notre fédération. Et notre fédération prend de l'ampleur, elle grandit. On pense aussi créer une association qui va regrouper toutes sortes d'associations culturelles et cultuelles. Et puis Dieu nous a parlé. Et puis pendant que j'étais là, j'avais tellement aussi d'occupations, mais j'étais là, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Et puis voilà qu'une question est venue dans mon esprit. Et depuis, cette question ne m'a pas quitté, jour et nuit. Et je crois qu'il y a des moments particuliers où il est bon et convenable de s'arrêter et de prendre le temps pour réfléchir à cette question, mais pas simplement pour réfléchir à cette question, mais pour y répondre. Et je trouve cette question, j'ai trouvé cette question importante, et je l'ai même trouvée impertinente. Et frères et sœurs, j'aime souvent ce qui spirituellement me dérange. J'ai bien dit ce qui me dérange spirituellement. Ça ne veut pas dire que j'aime bien qu'on me dérange. Je tiens à me protéger. Mais j'aime bien ce qui me dérange, c'est ce qui me fait sortir un petit peu de la routine, qui me fait sortir un petit peu de l'habitude. Et là, Dieu véritablement m'a dérangé. Est-ce que vous êtes content lorsque Dieu vous dérange? Ou vous dites, oh non, non, Seigneur, pas pour l'instant. Est-ce que vous êtes prêt ce matin? Est-ce que vous avez le désir? Je vais y arriver à cette question. Mais j'aime bien vous faire languir parce que ça vous dérange, spirituellement. Mais est-ce que vous avez le désir ce matin que Dieu vous dérange? Que Dieu vienne dans votre vie et te dit, hé, mon gars, hé, ma fille, il faut que ça change. Il faut que tu prennes une autre attitude. Il faut qu'enfin tu prennes la décision de suivre Jésus et que tu ne t'en sépares pas. J'arrive à cette question parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit, les familles, les enfants vont se faire un régal de faire la fête au père. Et moi, j'ai réfléchi à cette question concernant ma propre vie de père. Dans notre église, il nous faut des pères exceptionnels. Des pères qui vivent, qui agissent, qui bougent dans la dimension de Dieu. Quand Dieu me pose des questions, c'est pour me faire sortir de la normale. Parce que mon Dieu n'est pas un Dieu normal. Je n'ai pas dit qu'il était anormal, mais il est extra-normal. Dieu veut que nous sortions de notre concept charnel d'homme et de femme, et il veut que nous entrions dans le concept surnaturel et puissant de Dieu. Si vous n'aviez pas été là durant cette semaine, je ne vous en fais aucun grief, mais laissez-moi vous dire, dans cette semaine de prière, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont manifestées dans nos propres vies. Bien sûr, le diable a attaqué, bien sûr, le diable s'est manifesté, mais nous avons senti comme une fraîcheur dans notre vie de prière. Venez, ne vous empêchez pas de venir dans nos rencontres de prière. Il y a la vie dans nos rencontres de prière. Pourquoi? Parce que nous avons décidé d'entrer dans le surnaturel de Dieu. Et Dieu veut aussi des hommes et des pères qui prient et qui agissent. Des pères qui deviennent des modèles. Peut-être vous n'avez pas d'enfants, alors soyez aussi des pères spirituels. Alors cette question, ça vient? Oui, sans plus tarder. Cette question est venue à mon esprit. Et pendant que j'écoutais ce serviteur de Dieu, cette question est venue à mon esprit. Qu'est-ce que ta vie?
Quoi? C'est ça cette question?
Qu'est-ce que ta vie? Qu'est-ce que ma vie? Que suis? Quelle est l'influence qui se dégage de ma vie? Suis-je une source de bénédiction, d'encouragement ou le contraire? Quelle sorte de père je suis pour eux, spirituellement? Quelle sorte de mère? J'allais pas dire je suis, mais vous êtes, vous les femmes. Quelle sorte de chrétien tu es? Quelle sorte de musicien tu es? Quelle sorte de choriste tu es? Quelle sorte de leader tu es? Quelle sorte de prieur et prieuse tu es? Quelle sorte de témoin tu es? Quelle sorte de couple tu formes? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Pourquoi Dieu m'a-t-il appelé? Pourquoi Dieu m'a-t-il aimé et tant aimé? Pourquoi Dieu attend-il tant de moi? Il est bon quelquefois de faire un break sur nous-mêmes et de laisser le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, sonder notre cœur, nous montrer exactement ce que nous sommes, ce que lui voudrait que nous soyons, et jusqu'où nous sommes prêts à aller pour être ce que Dieu attend de nous. Parce que souvent, nous disons, « Hey, Seigneur, tu veux que je sois ça? Alors fais ton travail !» Non ! Le Seigneur veut voir jusqu'où nous sommes prêts à aller. Notre premier texte nous dit ceci, que David, durant sa vie, a servi au dessein de Dieu. C'est-à-dire, il a servi la volonté de Dieu, il a servi les plans de Dieu, il a servi et suivi les conseils de Dieu, mais pas d'une façon discrète. C'est fini le temps de vivre sa vie chrétienne discrète. Il a servi d'une façon publique. Il a servi Dieu au milieu de sa génération. Qu'est-ce que ta vie au milieu de la génération? Papa, ce matin, les enfants vont fêter ta fête. Une fête commerciale. Mais qu'est-ce que ta vie spirituelle au milieu de tes enfants? Quel est ton impact sur tes enfants? Maman, quel est ton impact sur tes enfants, même sur les petits-enfants? David a servi en son temps, durant son temps, au milieu de sa génération. Bien sûr, en son temps, il a servi Dieu de tout son cœur, ce qui n'a pas exclu certains dérapages, certains manquements. Homme de l'Église ce matin, Dieu t'appelle à réaliser le privilège que tu as, c'est-à-dire de servir Dieu, pas dans ton coin, pas dans ta petite vie personnelle, avec ta petite foi, mais de servir Dieu, d'obéir à Dieu, d'être l'homme public de Dieu au milieu de ta génération. C'est-à-dire d'inspirer la vie, de faire connaître Dieu et son plan rédempteur d'amour, d'influencer tous ceux qui sont autour de toi à mieux servir le Seigneur. Quand Dieu m'a posé cette question, qu'est-ce que ta vie? Et j'ai réfléchi. Quel est l'héritage spirituel que je vais laisser à mes enfants? Tu as un rôle à jouer pour tes enfants. Et nous avons tous un rôle à jouer pour les plus petits, la jeune génération. Si nous sommes infidèles, nous allons créer des infidèles. Si nous sommes inconstants dans nos décisions, nous allons créer chez nos enfants, chez ceux qui vivent, des inconstants. Si nous sommes révoltés, si nous sommes toujours en colère, nous allons créer des colériques. Eh oui, le chien engendre le chien, le chat engendre le chat. Et l'amertume engendre l'amertume. L'infidélité engendre l'infidélité. Qu'est-ce que ta vie? Qui es-tu en fait au milieu de ta génération? Une influence ou un quidam quelconque? Quelle est ma priorité? Mon plaisir, mon planning, mes désirs? Ou le plaisir de Dieu, la volonté de Dieu? Tu ne pourras jamais connaître une vie épanouie, une vie de richesse et d'abondance en dehors du plan de Dieu. Et Dieu veut que ta vie ne passe pas et tombe dans l'oubli, mais qu'elle marque ton temps, qu'elle marque ta femme, qu'elle marque tes enfants, qu'elle marque ta famille, qu'elle marque tes amis, qu'elle marque tes voisins. Qu'est-ce qui découle de ma vie? Qu'est-ce qui transpire de ma vie? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se dégage? Quel est l'impact sur la vie de mes enfants, de ma famille? Plus et encore, quel est l'impact que j'ai au sein de mon Église? Suis-je reconnu pour un homme de prière, pour un homme de paix, pour un homme d'amour, pour un homme de douceur, pour un homme à la puissance de Dieu? J'ai dit un homme parce que c'est la fête des pères, mais les familles sont dedans aussi. Un homme qui marque son temps parce que dans sa vie, il y a la signature de Dieu. Est-ce que la signature de Dieu est apposée à ta vie? Est-ce qu'on voit la trace de Dieu? Qu'est-ce que l'on dit sur vous? Oh, permettez-moi de vous dire que ce qui est important, ce n'est pas tant ce que les hommes disent sur vous, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de vous. Oui, parce que Dieu parle de vous. Ah bon, vous ne le saviez pas? Il entretient de grandes conversations dans le ciel, et il parle de toi, mon frère. Il parle du pasteur William Jouté, il parle du pasteur René Jouté, il parle de leurs épouses, il parle de leurs enfants. Il parle de toi qui est un ancien, qui est un diacre, qui est un leader, qui est un responsable. Il parle de toi et que dit-il? Est-ce qu'il va dire, oh cet homme, il a réellement mon caractère, mon tempérament, il est mon cœur. Est-ce qu'il va dire comme il a dit dans la Bible, oh c'est un homme fidèle, intègre, loyal, juste, il est bon. Comment permet-on à Dieu de parler de nous? Ou est-ce qu'il, lorsqu'il regarde certains, il dit, oh, celui-ci, il me sert de temps en temps, quand il y a un trou dans son programme. Cet autre, il vient vers moi uniquement lorsque le vent souffle et que le tonnerre gronde, comme dit ce cantique. Et heureusement que les épreuves, la maladie, les difficultés sont là, parce que ce sont les seuls moyens qui l'amènent à se souvenir de moi. Et celui-ci, ah, celui-ci, ou celle-ci, dès qu'il ou elle entend une petite réflexion, alors il baisse les bras. Ils oublient tout ce que j'ai pu endurer pour les sauver. Ne voulons-nous pas que Dieu parle autrement de nous et dise, voici un père, voici une mère qui me servent au milieu de leur génération. Qui ne cherchent pas leur plaisir, mais qui mettent leur plaisir à faire ma volonté. Qui ne veulent pas plaire aux hommes lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils vivent, lorsqu'ils agissent, mais qui veulent plaire en tout moment à Dieu. Dans le deuxième livre de Chroniques, au chapitre 16, verset 9, à un moment donné, l'homme de Dieu a dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Comment servons-nous le Seigneur? Quelle est ma vie? Qui suis-je? Quel est mon cœur? Est-ce qu'il est tout entier l'Éternel? Ou alors je me laisse éparpiller? Je suis partagé ici et là? Je vis de droite et de gauche? Qu'est-ce que ma vie? Est-elle soutenue par le regard compatissant et tout-puissant de Dieu, car mon cœur est tout entier à lui? Ou ma vie se trouve dans un délabrement spirituel, dans une tiédeur moite et inconfortable, car la vie de Dieu ne transpire plus par moi? Qu'est-ce que ma vie? C'est une question de sondage, c'est ma première pensée. Ma deuxième pensée, c'est où se trouve Dieu dans notre vie? Avons-nous toujours le désir de lui plaire? Le président de la fédération, Jean-Pierre Rich, était avec nous dimanche dernier, dans ce culte, et il a parlé sur cette question. Adam, où es-tu? Mais Adam représente tous les hommes. Où es-tu? Est-il uniquement... Oui, comme un accessoire. Ah, oh, j'ai besoin de ta bénédiction, Seigneur. Allez, tu m'aides cette fois-ci, hein? Et Dieu est tellement bon qu'il continue à nous aider. Est-ce qu'il est le centre de notre vie? Et s'il est le centre de notre vie, c'est notre stabilité. C'est la source de notre vie. Vivre sans lui nous est impossible. Comme dira un bon vieux cantique que nos anciens aimaient chanter à l'époque, et pourquoi pas, on pourrait le chanter encore aujourd'hui. Vivre sans lui, ce n'est plus vivre. Où tu voudras, je veux... te suivre. Nous vivons aujourd'hui dans une génération où la tendance est de faire plaisir à tout le monde. Et on voudrait aussi que dans cette église, le pasteur puisse faire plaisir à tout le monde. C'est pas possible. Excusez-moi, je suis pas là pour faire plaisir aux chrétiens. Je suis même pas là pour faire plaisir aux trésoriers, aux secrétaires. Je suis même pas là pour faire plaisir aux caméramans. Je suis même pas là pour faire plaisir. Non, je suis là pour faire plaisir à Dieu. Et quand je vais commencer à faire plaisir aux hommes, vous avez intérêt à m'interpeller. Et quand vous dites, tiens, le passant ne me fait pas plaisir, réfléchis. Il veut uniquement être contrôlé par Dieu. Et je ne prêche pas de cette façon pour faire plaisir ou pour émousser un peu les émotions. Parents, si vous êtes enfants de Dieu, il y a des moments où vous devez choisir entre plaire à Dieu et plaire à vos enfants. Non? C'est des jeunes parents, là, hein? Est-ce que ça vous plaît vraiment de... Paf! Non. Ça vous plaît pas de le faire. Mais vous le faites. Pourquoi? Parce que c'est important. Non, vous ne voulez pas les tuer. Et on ne vous demande pas de les tuer. Certains doivent secouer quelquefois un peu leurs enfants. Mais vous ne pouvez pas, si vous voulez vraiment que vos enfants grandissent, deviennent... Vous avez, en tant que parents, vous avez ce désir. Vous avez ce désir qui est louable, c'est que vos enfants soient des enfants exceptionnels. Non? Vous voulez mettre des enfants tordus au monde? Vous voulez mettre des enfants qui soient des... qui vont être, je dirais, accrochés à la drogue, qui vont être des fumeurs, qui vont... Vous voulez mettre des enfants qui, dans leur langage, ont un langage ordurier. À chaque phrase, il y a un juron qui sort. Non, vous voulez pas. Si vous voulez instruire vos enfants dans la bonne voie qu'ils doivent suivre, laissez-vous vous instruire par Dieu d'abord. Et nous ne pouvons pas plaire à nos enfants. Mes enfants sont grands, ils prennent leurs décisions, ils sont majeurs, mais il y a des moments où ils prennent des décisions, mais aujourd'hui, je suis pas d'accord avec eux. Mais je leur dis. Je leur dis pas. T'as pris cette décision. Maintenant, tu quittes la maison. Est-ce que Dieu agit comme ça avec nous? Pas du tout. Dieu est là. Et il dit, ta décision ne me plaît pas, mais tu vas manger ton pain assis. C'est ce que ma grand-mère disait et mon grand-père disait. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu et aux hommes. Voilà pourquoi il nous faut faire attention dans quelle voie nous dirigeons notre vie. Où est Dieu dans notre vie? Nous devons faire attention dans quelle voie même professionnelle nous dirigeons notre vie. Ah, comment Dieu doit être? Oui, Dieu doit être aussi dans ta vie professionnelle. Parce que si ta profession t'empêche de continuer à servir le Seigneur, arrête tout de suite. J'ai pas dit qu'il fallait que tu ailles pointer au chômage. Mais trouve un travail qui te permettra de suivre le Seigneur, de le servir, d'être un témoin. J'ai pas parlé d'horaire, mais j'ai parlé de vivre de la façon morale, de vivre d'une façon spirituelle. Fais attention avec qui tu fréquentes. Ta vie sentimentale, les projets que tu désires, les projets vers lesquels tu vas. Il faut que tu puisses partager la vie avec celui ou celle qui va aussi embrasser ton désir de servir le Seigneur. Est-ce que vous voulez servir le Seigneur? Automatiquement, nous voulons réellement servir le Seigneur. Et moi, je bénis le Seigneur. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et j'ai pas été difficile à accepter. Dieu m'a envoyé une femme et on sert le Seigneur. Et nous avons... influencer nos enfants aussi à servir le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous avons été de bons parents qu'ils sont sauvés, mais parce qu'ils ont fait, ils ont pris la décision personnelle. Et ils ont vu notre attachement. et maintenant ils sont attachés à Dieu, et ceux qui s'attachent à leur vie doivent aussi s'attacher à Dieu. Sinon, ça sera le fiasco. Nous avons une réputation. Oui, vous avez une réputation. Que vous le sachiez ou pas, vous avez une réputation d'aller à l'église. Et peut-être que les gens vont vous dire, ah, tu vas à l'église, peut-être qu'ils vous appellent petit curé, ou petite bonne sœur, ou petit pasteur, ou le prêtre, ou le rabbin. Peut-être, et vos collègues, quelquefois, vous font, ah, tu vas encore à ton église, ah, tu vas à ton église, ah, tu y vas. Et peut-être qu'ils vous prennent comme ça à la légère. Mais un jour, ils viendront vous supplier, est-ce que tu peux prier pour moi? Combien c'est arrivé à des personnes? Ah oui, parce que nous voulons servir Dieu au sein de notre génération. Mais est-ce que pour le compte de nos amis, le compte de la famille, nous disons, Seigneur, aujourd'hui je m'excuse, mais je ne peux te servir, je ne peux être fidèle. Alors Seigneur, passe à la seconde place. Et sans nous en rendre compte, il y en a un qui aime avoir la première place. Et à chaque fois que nous remettons en cause notre appel, que nous nous endormons face à nos responsabilités, alors il prend la première place. Et celui qui prend la place s'appelle le diable. À chaque fois que nous nous endormons spirituellement, nous tombons sous les pièges de l'ennemi et nous ne sommes plus sur nos gardes, nous devenons vulnérables. Qu'est-ce que ta vie? Qu'est-ce que ma vie? Qui es-tu au milieu de ta génération? Est-ce que Dieu est dans le coup ou est-ce que tu favorises les circonstances pour t'éloigner les plans merveilleux de Dieu? J'ai remarqué dans cette église, je ne parle pas des autres églises, j'ai remarqué dans cette église comment les chrétiens embrassent les circonstances avec joie, les circonstances qui les éloignent du service du Seigneur. Comment pas? À chaque fois qu'ils ont une possibilité de ne plus servir le Seigneur, ce sont les premiers à mettre les pieds dedans. Rappelez-vous ceci, un jour Dieu fera les comptes. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger nos engagements au niveau de nos enfants, nos familles inconverties. Non, Dieu sait qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais si les circonstances reviennent trop souvent et nous éloignent de notre service pour Dieu, de notre attachement à la maison de Dieu, de notre attachement au peuple de Dieu, nous sommes en danger. Vous rappelez-vous de cette histoire, Esther? Dernier exemple avant que j'arrive à mon troisième point, puis ma conclusion. Esther. Vous connaissez Esther? Oui, c'est un nom qui résonne bien. J'aime bien Esther parce que ça veut dire étoile et c'est renversé, ça fait Stella. J'aime bien Stella. Esther, qui veut dire reine, qui veut dire couronne. Esther est devenue une reine. Et à un moment donné, il y a eu le danger, écoutez bien, il y a eu le danger pour le peuple de Dieu. Et j'aimerais vous dire que vous êtes devenu chrétien. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a danger pour la maison de Dieu. Et si vous êtes parvenu aujourd'hui à cette statue de spiritualité, c'est parce que Dieu veut vous servir. Et un jour, Mardoché est venu voir Esther. Et il dit, si tu te tais maintenant, si tu arrêtes d'être ce que tu dois être au milieu de ta génération, la délivrance surgira d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison et ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Écoutez ce proverbe, la sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Ça veut dire que si tu regardes ailleurs et partout, alors tu te laisseras aveugler, perdre. La véritable intelligence, c'est de regarder à l'être suprême, l'essence même de la vie et de vivre, c'est-à-dire Dieu. Écoute encore ce proverbe. Toi qui fais beaucoup de projets, qui a un planning bien établi et qui souvent oublie le dessein de Dieu, la volonté de Dieu dans lequel tu es inscrit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit seulement. Tu veux connaître le succès, le bonheur? Alors sache qu'en dehors du dessein de Dieu, rien ne s'accomplit, c'est le fiasco. Car rien ne dure, alors qu'en Dieu c'est la sécurité, la vie éternelle. Ne fais pas passer Dieu après tes projets, mais donne à Dieu la place, toute la place, dans tous tes projets. Car tu as été créé pour cela, et les desseins de Dieu doivent s'accomplir. Je terminerai par cette pensée, notre responsabilité. Notre responsabilité, nous l'avons lu, et je vous l'ai lu, c'est de bénir. C'est à cela que vous avez été appelés. Afin d'hériter la bénédiction. Bénissez. Notre responsabilité, c'est de bénir et d'être une source de bénédiction. pas de malédiction. Je voudrais arriver à cette dernière pensée. Notre responsabilité est de faire de notre vie une source de bénédiction pour les autres. Qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que ma vie de père? Qu'est-ce que ma vie de pasteur? Qu'est-ce que ma vie d'enfant de Dieu? Qu'est-ce que ma vie de leader? Est-ce que je suis une source de bénédiction? Est-ce que je suis un encouragement, une aide pour ceux qui sont dans le désespoir? Est-ce que je suis un exemple pour les plus jeunes? Est-ce que je suis un exemple pour les plus aînés? Ne pas être une pierre d'achoppement pour que ceux qui sont choqués s'éloignent et ne viennent plus à la grâce. Que dans ma bouche se trouve uniquement une parole d'encouragement et que ma vie soit une vie d'encouragement. Vous savez, une parole d'encouragement, une vie d'encouragement peuvent faire la différence entre abandonner et continuer. Vous me suivez? Si votre vie est une vie d'encouragement, ça peut faire la différence entre abandonner et continuer. Est-ce que ta vie a été déjà l'objet d'abandon, de reniement? À cause de tes réflexions, à cause de tes emportements, à cause de tes situations, à cause de tes, je dirais, tes réactions, certains se sont éloignés de toi. Ta responsabilité est de bénir, de protéger. Ma vie est la preuve que le Christ ressuscité vit en moi, car le dessein de Dieu en moi, c'est de donner aux autres ce que Christ m'a donné. Qu'est-ce que ta vie, mon frère? Qu'est-ce que ta vie, ma sœur? Est-ce que c'est une vie qui stimule? Est-ce que c'est une vie qui encourage? Est-ce que c'est une vie qui édifie? Est-ce que c'est une vie qui relève? Est-ce que c'est une vie qui construit? Est-ce que c'est une vie de bénédiction? Quelle sorte de père est-ce que je suis devenu? Quelle sorte d'exemple pour ma descendance? Oui, nous avons une responsabilité, c'est de démontrer l'existence de Jésus en nous et de faire envie aux autres. Écoutez, et quelques remarques sur certaines personnalités que peut-être des jeunes ou des moins jeunes ont entendu parler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce chanteur américain, Randy Newman, qui indique bien de par sa vie et par ses chansons la direction dans laquelle son père acté l'a conduit, l'a influencé. Dans une de ses chansons, il chantera « Pas besoin de Dieu pour me consoler et pour croire, pourquoi croire à ses mensonges ?» Et un jour, son père, visitant un hôpital d'enfants, se moqua à l'idée d'un Dieu de compassion en pointant son doigt sur les enfants malades et dit, en riant, « C'est là la volonté de Dieu. » Pas étonnant que ce chanteur, Randy Newman, chantait « Je n'ai jamais eu la foi, mais le fait de ne pas croire ne m'a pas jamais rendu plus heureux. » Quelle influence avons-nous sur nos enfants si nous le servons de tout notre cœur? Si notre cœur n'est pas tout entier à l'Éternel, alors nous décidons pour eux d'un avenir tragique. J'aimerais vous dire ce matin, la foi, la fidélité, la persévérance de mes parents m'ont amené à suivre de la même manière celui qui a touché ma vie. Et je veux pour mes enfants, et Dieu sait pour mes petits-enfants, et Dieu sait pour mes arrière-petits-enfants si j'en ai, et si Dieu me prête en vie, et si vous me protégez pour que je vive bien, eh bien je veux être cette influence, montrer que mon cœur est tout entier à l'Éternel. Pour ceux qui ont fait des études et ont étudié Sigmund Freud a une vie terrible parce que son père était un pervers sexuel. Voltaire, vous avez tous lu du Voltaire. Il a combattu son père toute sa vie. Et Voltaire a refusé son nom familial parce qu'il avait honte de son père. Nietzsche, connaissez Nietzsche? Il a perdu son père à l'âge de 4 ans. Et le père de Sartre mourut avant qu'il ne naisse. Albert Camus avait 1 an lorsque son père est mort. Et ils n'ont jamais connu l'influence de leur père. Je terminerai par un homme qui a marqué notre histoire de France. Adolf Hitler. Qu'est-ce que vient faire Adolf Hitler ici? On peut se poser toutes sortes de questions. Oui, c'était un démoniaque. Oui, c'était un déphasé. Oui, c'était un fou. Oui, c'était un violent. À l'âge de 14 ans, il a vu son père mourir. Mais son père, devant ses enfants, battait sa femme, violentait sa femme, et aussi battait son chien, et après ses enfants. Ne vous étonnez pas que cet homme a suivi le courant de son père. Est-ce que ça ne nous laisse pas réfléchir? Oh, pasteur, je ne suis pas Hitler, mais je suis, alléluia. Mais quand tu as des réactions de violence, sache que tu es aussi
une influence. Qu'est-ce que ta vie ? Pleine de colère, pleine de violence ? Alors tu vas générer cela dans la vie des tiens. Tu crois en Jésus, tu es son enfant. Souvent, je me fais rappeler par mes enfants. Je stresse facilement. Je panique facilement. Elle me dit, oh, je rejette ça, ça vient des joutes. Et quelquefois, je dis, mais je suis calme. Et ils le sentent. Et nous générons certaines choses nocives. Est-ce que nous voulons être une source de bénédiction ? Nous avons le pouvoir parce que Dieu nous a rendus dignes et nous rend capables d'annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ma vie ? Quel est le poids de ma vie dans la balance de Dieu ? Quelle influence vais-je donner à ma descendance ? Vais-je faciliter leur cheminement vers Dieu et avec Dieu ? De toute façon, je devrais rendre des comptes. Si Dieu te donne la vie, s'il t'a permis de promouvoir la vie, tu as une responsabilité envers les tiens. De même, lorsque tu engendres spirituellement, lorsque tu amènes une nouvelle âme au Seigneur, quel est ton impact sur cette nouvelle âme, sur ces nouvelles personnes ? Quel est ton témoignage, ta fidélité, ta participation, alors que tu es reconnu pour être un responsable ? Es-tu une source de bénédiction, d'encouragement, ou parce que tu n'es pas tout entier à l'éternel ? Alors ta vie empêche les hommes et les femmes de s'approcher de Dieu, de connaître qu'une délivrance totale, un épanouissement complet. Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mon frère, ma sœur, mon ami, je voulais simplement te transmettre la question que Dieu m'a posée. Qu'est-ce que ta vie ? Et il n'est pas trop tard pour racheter le temps. Il n'est pas trop tard, même si tu n'as pas eu toujours un bon témoignage pour tes enfants et tu as vu un peu tes enfants dévier, il n'est pas trop tard. Deviens l'homme que Dieu veut que tu sois. Deviens la femme que Dieu veut que tu sois. Ne rends pas le mal pour le mal, l'injure pour l'injure, mais bénis au contraire, parce que c'est à ce que tu as été appelé. Tu as été créé pour bénir, et bénir uniquement par ta bouche, par ta vie, par ta fidélité, par ton engagement, par ton empressement à vouloir bénir, et tu seras béni de l'Éternel. Votre vie peut répandre la lumière, mais votre vie aussi peut jeter une ombre. Une vie consacrée à Christ est le meilleur héritage qu'on puisse laisser à fin. Je voudrais ce matin vous appeler, ce matin, devenir le bon exemple. Et la façon d'être le bon exemple, c'est de laisser Jésus vivre en nous. Est-ce que ce matin, Dieu t'a interpellé ? Est-ce que Dieu te montre qu'il y a encore des choses dans ta vie qui ne sont pas libres pour les autres, par les autres ? Qu'est-ce que ta vie ? Dieu veut prendre ta vie dans ses mains et la modeler. Vous savez, on dit souvent, plus on vieillit, plus c'est dur de changer. Mais pas avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous rajeunit comme l'aigle. Est-ce que tu veux être ce matin, même si tu n'es pas un papa, même si tu n'es pas une maman, mais tu es un membre de cette congrégation, tu es une pierre vivante, tu es infidèle, tu es engagé. Est-ce que tu veux devenir réellement un exemple, une source de bénédiction. J'aimerais qu'on puisse, pendant quelques instants, fermer nos yeux. Et j'aimerais que vous puissiez vous poser à votre vie, à votre cœur. Dites-le à vous-même. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi, ou celle qui est derrière toi, ou ton mari, ou ta femme, ou tes enfants. Mais pose-toi la question, mais qu'est-ce que ma vie ? Est-ce que ma vie, elle est une source de bénédiction ? Est-ce que ma vie, je peux voir le fruit de ma vie ? Je peux voir l'encouragement, je peux voir le positif de ma vie ? Est-ce que je suis un homme de paix ? Est-ce que tu es un papa de paix ? Est-ce que tu es une maman de paix ? Dieu veut te bénir ce matin. Dieu veut nous transformer. J'aurais bien voulu que tous les hommes se lèvent et prient pour eux, mais je vais prier pour eux, je ne veux pas faire de forcing et entrer aussi dans une routine. Même si quelquefois ça dérange, ça fait du bien de déranger. Mais j'ai vraiment envie de prier pour tout le monde ce matin, pour que notre vie soit une vie de bénédiction. Une bénédiction d'abord pour les autres. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donne le bon exemple. Donne le bon exemple. Peut-être tu ne pourras, tu n'as pas d'enfant, mais Dieu va te donner des enfants spirituels. Des gens qui sont autour de toi. Tu dois être un papa, une maman spirituelle. Dans l'Église, nous avons besoin de pères et de mères spirituels. Mais nous avons surtout besoin de bons exemples. Et je bénis le Seigneur pour les anciens qui m'ont montré leur attachement à Jésus-Christ, leur fidélité. Seigneur, je veux te demander ce matin de continuer à parler au cœur. Seigneur, comme cette question est venue cingler mon visage, elle est venue choquer mon cœur, elle est venue m'assaillir de tous les côtés, cette question brûlante, qu'est-ce que ta vie ? Oh Seigneur, je veux le dire de tout mon cœur et je veux faire tous mes efforts et prendre ma vie réellement en main et dire ça suffit maintenant, je veux que ma vie glorifie Jésus. Je veux que ma vie ne se laisse pas éparpiller, ne se laisse pas enlever, voler, éloigner de ta sainte convocation. Je veux réellement être une bénédiction. Seigneur, je te prie de bénir chaque personne. Chaque frère, chaque sœur, chaque personne ici, les jeunes, les moins jeunes, les couples, les foyers. Je te prie pour tous ceux qui ont un service particulier, que réellement leur vie soit une vie de bénédiction. Dis-le dans ton cœur au Seigneur. Je veux que ma vie soit une vie de bénédiction. Décide-le à partir d'aujourd'hui. Plus jamais la malédiction découlera de ta vie.